Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Voilà, donc nous y sommes avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc une émission déterminée à rendre les plaintes des citoyens ouvertement publiques afin que l'action politique ne peut se justifier autrement. Vous comprenez, mes chers auditeurs, chères auditrices, que la complicité du système et sa lenteur dans le domaine de la justice devient des facteurs aggravants qui, malheureusement, découragent la plupart des citoyens victimes, surtout de l'autorité, de se défendre convenablement devant les tribunaux. Aujourd'hui, les droits de citoyens les plus fondamentaux sont devenus un luxe qui n'est pas permis à tout le monde. Constat direct, donc, il y a forcément une frustration, un dégoût, une perte de confiance de la part des citoyens envers ceux qui se sont précipités à embrasser le pouvoir sans se rendre compte de leur incapacité. Nous vous le rappelons, chers auditeurs, chères auditrices, que la responsabilité est un fardeau. Et c'est un fardeau de lourdes conséquences à court et long terme. Alors on se demande parfois comment certaines personnes l'acceptent rapidement et la négligent sans aucun souci apparent. N'oublie surtout pas, avant de traiter avec quelqu'un, qu'il s'agit d'un individu comme vous, et des fois même mieux que vous, mais qu'est-ce que vous voulez, certaines circonstances dépassent par moments la volonté de l'être humain. Voilà pourquoi le dicton est vrai, l'apparence peut être souvent trompeuse. Maintenant, cette rubrique demeure un bon exemple pour celles et ceux qui veulent découvrir l'autre, celui qu'on classe précipitamment peu de valeur ou presque inférieur parce qu'il est pauvre, sans travail, atteint d'une maladie qui a réduit ses capacités, mal intégré dans la société, différent par son origine, sa couleur, bref. Il y a plein de stigmates et des préjugés fabriqués systématiquement et prêts à tout moment de démolir ces individus, ces citoyens hautement fragiles. Dans cet exercice hebdomadaire, nous accordons justement la parole à ces gens pour nous exposer le fond de leurs pensées, une manière de se défendre, de s'exprimer publiquement et de dire à l'autre à quel point il a définitivement tort. Voilà pourquoi nous vous encourageons, chères auditrices, chers auditeurs, si vous êtes témoin ou victime d'abus de pouvoir ou d'injustice, quelle que soit la position de l'abuseur, policier, enquêteur, officier, procureur, juge, ils sont nombreux à citer, et qu'il y a aussi beaucoup d'avocats qui abusent de leur pouvoir et du moment sur des présumés accusés. Bref, l'autorité se résume dans toutes celles et ceux qui ont un pouvoir sur nous, nous les simples citoyens. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du Mouvement Action Justice, un organisme qui fait entre autres la surveillance civile des institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. À mes côtés, comme d'habitude, mon collègue Roland Cazès, Edgar Robin, Rosemonde Logo, Clara, et nous avons avec nous dans le studio Madame Joanne Galipeau, chargée de dossiers et des communications de le collectif de Action Autonomie. Elle est venue nous parler d'un sujet de société trop délicat, un sujet qui touche des personnes souffrant de santé mentale. Et à cette occasion, nous avons aussi invité deux personnes. L'une avec des problèmes, qui vit avec des problèmes de santé mentale, justement, et l'autre est un témoin très proche de celle-ci. Donc tous les deux, finalement, vont nous parler de leur expérience avec l'abus de l'autorité, et surtout le risque de se retrouver éparpillé dans cette case de citoyens marginaux. Madame Galipeau va nous dire s'ils ne le sont pas déjà. Écoutez, restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Après notre thème musical, nous allons revenir avec notre sujet d'aujourd'hui, le profilage social, un phénomène de société de plus en plus inquiétant. Madame Joanne Galipeau, de l'Action Autonomie, pourra-t-il nous dire pourquoi ?
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel. Vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Bon. Donc voilà, rebonjour chères auditrices, chers auditeurs. Avant de céder le micro à mes invités, je souhaite vous rappeler de la mort tragique de monsieur Mohamedi Farshad, cet ignorant de 34 ans qui est tombé sous les balles d'un agent de la SPVM le 6 janvier 2012 à la station du métro Bonaventure. Je vous rappelle aussi que l'identité de l'agent qui a abattu monsieur Farshad n'est pas dévoilée jusqu'à présent en public et rien n'est divulgué en images ou d'autres de cette fusillade. Si le SPVM n'a rien à se reprocher dans cette histoire, pourquoi ce silence et cette haute confidentialité dans le traitement de ce dossier? Je vous ai informé que la dépouille de M. Farshad Mohamedi était supposée être enterrée le jeudi, le 26 janvier dernier, à mon avis, sans que la population ne le sache réellement, mais heureusement, la dernière minute, et plus précisément la veille du 25 janvier, le coroner avait annulé le tout, puisqu'il est venu de retracer la famille de M. Farshad en Iran. La bonne nouvelle, dans ce, M. Edgar Robin, qui est chargé de ce dossier-là, il n'est pas encore présent dans le studio, mais je veux juste dire que la bonne nouvelle, c'est que plusieurs mouvements et organismes en défense des droits se sont soudés les épaules en préparation de défendre les droits de M. Farshad. Je passe directement, donc merci à mes invités qui sont là devant moi aujourd'hui, Madame Joanne Galipo, Monsieur André Massé et Monsieur Paul Charland. Merci d'être ici. Et bonjour Madame Galipo.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez aujourd'hui confirmer que M. Farshad souffrait apparemment de problèmes de santé mentale et que ces problèmes ont un lien direct avec sa situation précaire ici au Canada? Autrement dit, est-ce qu'une personne qui vit avec un statut précaire dans une société comme la nôtre peut voir sa santé mentale se dégrader?
C'est évident. Il y a plusieurs études qui le démontrent d'ailleurs, là, que les inégalités sociales sont une des premières sources de la maladie, tant physique que mentale. Dans le cas de M. Farshad, je n'ai pas son dossier médical, je ne peux pas confirmer.
Oui. Mais selon son témoignage, tout ce qu'on a vu,
d'après les témoignages,
il dit rapidement comme quoi il était quand même atteint d'une maladie, comme était des problèmes de santé mentale.
Il semblerait.
Voilà. Maintenant, je veux savoir, Mme Galipou, le cas de M. Farshad et d'autres d'ailleurs, ces problèmes de santé mentale, ils sont exposés. Est-ce qu'ils sont un danger extrême à la société?
Non, on le croit, ça fait partie des stigmas, des préjugés qu'on a à l'encontre des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Oui. On a peur, on pense qu'ils peuvent être dangereux, on pense qu'ils peuvent être imprévisibles, on imagine qu'ils sont dans leur tête, dans l'imaginaire et non pas dans la réalité, alors que c'est faux, là, sauf peut-être dans des périodes de crise extrêmes. Et encore là, ils ont toujours un contact avec la réalité, sauf qu'à certains moments, ils ont de la difficulté à répondre adéquatement lorsqu'on les interpelle. Parce qu'ils sont en détresse, ils sont pris dans leur détresse.
Oui. Et ce n'est pas forcément que c'est des gens qui peuvent être vraiment des gens agressifs, violents.
Écoutez,
est-ce qu'il n'y aurait pas de la frustration là-dedans, peut-être aussi?
De la part des personnes qui ont des problèmes de santé mentale?
Oui, par rapport aux autres, par rapport au jugement et autres.
Écoutez, lorsqu'on a un problème de santé mentale, et en plus, on est sans domicile fixe, ça fait deux stigmas au lieu d'un, deux fois, c'est évident qu'à part à force de te faire interpeller pour un oui, pour un non par la police, lorsque tu vois arriver un policier près de toi, ta première réaction, c'est la défensive. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il me veut encore?
Oui. Mais c'est pas juste un policier, même s'il est approché par d'autres personnes qui se sont une sorte de menace, j'imagine qu'il va intervenir.
Mais comme n'importe qui, comme n'importe quel être humain, si tu te sens menacé, c'est sûr que tu te mets sa défensive et ton premier accueil n'est pas nécessairement le plus souriant.
Bon, Madame Galipou, si vous permettez, je vous laisserai en parenthèse et je reviens maintenant avec mon premier invité qui est monsieur Paul Charland. Et vous êtes, monsieur Charland, malheureusement, vous vivez depuis 10 ans de problèmes de santé mentale. Est-ce que c'est exact?
Effectivement. Moi, j'ai été diagnostiqué par le docteur Turicki à l'hôpital de Douglas comme étant une personnalité bipolaire et une personnalité borderline. Borderline, ce qui veut dire que on peut se revirer vite quand on se sent en danger aussi.
Oui.
Ça veut dire qu'on peut se mettre à crier, à dire des choses, sans être violent physiquement.
Mais si vous me permettez, avant 10 ans, je vous ai rencontré chez vous et vous m'avez dit comme quoi votre vie, elle était, vous vivez bien, vous avez une famille, vous avez travaillé, tout était excellent avant de tomber dans cette chute-là de problèmes de santé mentale.
Effectivement.
Vous avez eu un travail, vous travaillez quoi avant?
Moi, j'ai travaillé à plusieurs domaines, sauf que j'ai été aussi dans les forces armées, avec un bon dossier. J'étais toujours quelqu'un de souriant, de venant, comme on dit. J'ai travaillé dans la restauration, comme photographe aussi. Alors, comme on sait que les compagnies ferment souvent depuis des années, on change de travail, mais j'ai toujours été bien. Un sportif, j'ai resté avec une fille pendant 10 ans.
Pendant 10 ans. Ça, vous avez quand même une certaine stabilité.
Oh, oui.
Excellent. Mais maintenant, si je ramène un petit peu les choses trop vite comme ça. Si on part de 6 mois d'ici, vous avez eu vous vivez avec un coloc ici depuis 9 ans, que lui aussi va témoigner, vous appuyez votre témoignage. Vous avez eu un événement qui était passé le mois de juin ou août, où vous sortez de chez vous, vous êtes allé dans un parc à côté et vous observez des enfants qui jouaient là-bas, c'est ça? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé?
À ce moment-là, c'était une fête foraine. Alors, je ne sais pas si tous les gens étaient invités dans le quartier.
Oui.
À ce moment-là, c'était pour le service de garde qui avait organisé ça. Et moi, comme j'ai vu qu'il y avait de la musique, des ballons et toutes sortes de choses, je suis sorti avec mon chien et je suis allé. À ce moment-là, ceux qui faisaient du pétanque, ils ont dit « Bon, mais c'est la dernière tourne de la soirée qui était Aki Breaky Dance, que je me souviens bien. » Et je suis allé avec mon chien et je me suis mis à danser et mon chien était à côté d'une personne, d'un adulte avec sa petite fille de 2 ans.
Mais vous l'attachez avec un
enfant? Il était attaché en laisse. Et la petite fille s'amusait avec. Il y a une personne qui est venue me voir, c'était vraiment la dernière toune, et m'a dit, est-ce que vous avez un enfant qui fait partie du service
vous
de garde?
Vous avez dit non, j'imagine?
J'ai dit non. Et je me demande si j'avais dit oui, qu'est-ce qui serait passé aussi?
Oui.
Donc, à ce moment-là, j'ai été, on m'a dit de sacrer mon camp.
Ils vous ont demandé de partir?
Ah oui, immédiatement.
Vous avez aucune... C'est-à-dire, vous n'avez rien fait, finalement?
Non, avant, j'ai rien fait. Ils m'ont juste dit, tu es obligé de t'en aller.
Partir.
Puis il restait 2 minutes au parti, là, en bon français. Là.
Et, si j'ai bien compris aussi, vous avez entendu, en partant comme ça, vous avez entendu quelqu'un qui parlait comme quoi vous étiez un pédophile, c'est
oui,
ça?
Oui, oui.
C'est bizarre. Comment quelqu'un il peut lancer un pédophile? Quel est le rapport?
Je ne sais pas, parce que moi, c'est un parc où j'allais régulièrement.
Oui.
Et les parents venaient à côté de moi pour approcher le chien,
oui.
le flatter et jouer avec.
Oui.
Alors, moi, je connaissais beaucoup de parents dans l'entour de l'école qui s'appelle Saint-André-Apôtre, j'ai pas besoin de le dire 2 fois.
Oui.
Et la directrice de l'école qui était là à ce moment-là a porté plainte parce que, en principe, j'aurais fait des voies de fait sur les personnes.
Oui.
Mais moi, je pense que j'ai été agressé le premier.
Oui.
Et c'est ça, c'est bien
sûr. Non, mais revenons à cet événement-là. Vous entendez quelqu'un qui dit derrière vous, vous êtes un pédophile, ça vous a agressé, ça, vous avez sorti de révolte à l'intérieur de vous, vous avez pas accepté ce mot-là, c'est ça?
Effectivement.
Vous avez fait quoi après?
Moi, j'ai pas répondu, je suis retourné chez moi.
Et vous paniquez, vous êtes dans un état de panique?
Puis là, j'ai dit, écoutez, là, moi, il faut que je retourne au pape pour essayer de m'expliquer, et j'étais vraiment, le mot, c'est enragé.
Ouais, c'est enragé. Pourquoi les gens, ils m'accusent d'être un pédophile?
Mais c'est un parc public, excusez-moi.
Ouais.
C'est un parc public.
Tout à fait, oui.
C'était pas privé, là.
On m'a dit que sur le terrain de l'école Saint-André-d'Apôtre, c'est un privé.
Ah, OK.
Et le parc Saint-André-Apôtre, où il y a la patinoire d'hiver et plein de soccer, moi je pense que c'est un parc public que la ville entretient.
Voilà. Mais maintenant, vous rendez chez vous, vous en êtes un petit peu de panique et tout, vous revenez, vous avez fait quoi, monsieur?
Écoutez, moi je suis allé voir des gens pour leur dire, là, c'est pas correct.
Oui.
Puis là ils ont commencé.
J'imagine que vous avez levé la voix, vous avez dit
ça n'a pas de sens,
vous paniquez réellement.
Oh, oui, je suis allé voir.
Suite à la réaction, à votre réaction, j'imagine que tu n'étais pas très content, et on comprend. Les gens, ils ont appelé la police, c'est ça?
Oui, effectivement.
Et qu'est-ce que la police est intervenue? Qu'est-ce qui s'est passé après?
Écoutez, moi, je suis retourné chez moi. Et puis, à ce moment-là, les policiers, ils savaient où j'étais à cause du chien. Ils me connaissaient, les gens me connaissent.
De toute façon, le parc n'était pas loin de la...
Non, le parc où j'allais régulièrement, tous les jours. Et puis là, j'ai rendu à la maison. Moi, André me dit que j'aurais peut-être eu un couteau.
Vous parlez de André Massé?
Oui.
Votre collègue, votre colocataire qui habite avec vous depuis 9 ans, c'est ça?
Oui.
Oui.
Je suis rentré à la maison, je me suis donné un coup de couteau dans le ventre. Tentative de suicide.
Pourquoi?
Sérieuse.
Vous avez tenté de suicider?
Oui. Mais c'est parce que moi, j'ai vu les policiers arriver et j'ai paniqué encore une fois. J'ai dit là, c'est, ça fait, là.
Ouais.
Moi, je suis allé de me faire harceler, de me faire intimider, insulter. Et puis là, j'ai dit là, c'est fini. Moi, c'est la solution totale.
Oui. C'est-à-dire, vous avez, il y a quelques minutes avant, vous avez refusé ce mot-là de pédophile, que vous ne comprenez pas pourquoi. Et après ça, vous avez essayé de faire comprendre à ces gens-là mais pourquoi vous me nommez, vous m'accusez, vous m'insultez, si vous voulez. Il n'y avait pas de réponse. Donc, vous rentrez chez vous, vous paniquez, et après ça, vous prenez un couteau et vous le foncez dans le ventre. C'est ça. Mm-hmm. La police arrive.
Oui. Je me permettrai de faire un...
Je veux dire, c'est André Massé, son coloc qui habite avec nous depuis 9 ans. Donc, il est là pour appuyer le témoignage de M. Paul Charlon.
Moi, je peux comprendre le fait qu'il s'est suicidé, mais d'une part, ce que je trouve difficile, c'est l'entrée facile dans une maison d'un service policier.
Vous parlez d'intervention policière.
Oui.
Oui,
mais à ce moment-là, monsieur était déjà en crise majeure.
Oui, oui.
Et de la maison, j'ai appelé l'ambulance.
Oui.
Lorsqu'on appelle l'ambulance dans un cas d'un bipolaire, où monsieur est enregistré au poste de 27, vous avez l'ambulance, les polices, puis les pompiers. Ça fait beaucoup de monde, ça.
Mais comment vous décrivez aux auditeurs aujourd'hui l'intervention policière? Comment la décrivez-vous?
Violente.
Comment, pouvez-vous nous dire en quelques mots comment
il n'y avait pas de mandat. Hein? Ils n'avaient pas un mandat.
Ils avaient un mandat, mais
absolument
non.
Absolument pas. Voilà. Dans tous les cas où la police a dû intervenir dans mon logement, hein, ils n'ont jamais eu de mandat.
Mais revenons juste à l'événement.
À l'événement, tel. Alors là, je comprends là, pourquoi tu as pris le couteau. Moi, j'ai eu juste le temps de le regarder. Les choses sont faites. Hein. C'est une fraction de seconde. Alors après ça, ben, je vais le laisser expliquer. C'est lui qui a la suite des éléments.
Revenons un petit peu avec M. Paul Charlon. Vous avez foncé un couteau dans le ventre parce que vous avez souhaité ou vous allez vouloir faire fin à votre vie, c'est ça?
Oui, moi j'ai paniqué parce que en voyant les policiers.
Vous ne supportez
pas. Non, pas encore. Les menottes et tout ce qui va avec, moi je pense.
Mais là, on parle, vous avez un couteau dans le ventre. Est-ce que les policiers sont rentrés sur le lieu? Vous ont menotté? Je comprends pas là.
Mais ils voyaient, le couteau était sorti, ils voyaient que j'étais assis sur mon lit. J'étais, instable, j'étais physiquement amoché. Et il est arrivé des policiers, ils ont commencé à m'insulter en plus, verbalement. Il y a même un policier qui a dit on va te mettre les menottes. J'ai dit écoutez, là, si vous mettez les menottes dans le dos, regardez, je suis déjà coupé en avant, là, ça saigne. Là. Il est arrivé, en prenant ça, heureusement, les pompiers qui ont calmé la situation. Ils ont dit aux policiers, tassez-vous un peu, il est blessé, le monsieur.
Et vous êtes transporté à l'hôpital, j'imagine.
Oui, l'ambulance est arrivée et j'ai été transporté à l'hôpital Sacré-Cœur. Oui.
Je m'excuse d'interrompre.
Je vous en prie.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déposé une plainte et est-ce que vous avez le nom de la personne qui a déposé la plainte contre vous?
Mais la plainte de quoi? Parce qu'il y a pas.
Ben, si les policiers sont venus, intervenus, c'est qu'il y a quelqu'un qui a déposé une plainte.
Excusez-moi, je voudrais Mme Galipo,
je voudrais faire une mise au point. Là, ce qu'on appelle l'ambulance, automatiquement, la police et les pompiers viennent. C'est pas parce qu'il y a un problème de santé mentale. Bon, en plus, il y a un problème de santé mentale doublement, mais ça fait partie de leur règle de base lorsque tu appelles pour une urgence.
Non, mais
excusez-moi, il faut faire attention.
C'est pas ça la précision.
Roland, je me permettez, Mme Galipo. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction du monsieur en entendre qu'on croit être traité de pédophile, d'être expulsé sur le coup d'avoir qu'il n'a rien fait? Est-ce que pour quelqu'un qui souffre déjà de problèmes de santé mentale, est-ce que ça peut aggraver, est-ce que ça peut le mettre dans un état de crise où il va perdre un peu le pédale?
Ben écoutez, n'importe qui se ferait traiter de cette façon-là et perdrait les pédales, comme vous dites. C'est normal d'être fâché, d'être insulté. Peut-être que monsieur a réagi beaucoup.
Exactement.
Mais en même temps, il n'est pas menaçant physiquement envers quiconque. Là. Il parle fort.
Je vais continuer ma question.
Si j'ai bien compris son histoire.
Il y a eu une plainte contre monsieur. Et qui a formulé cette plainte? Et ça, c'est important.
L'école,
probablement.
Mais qui est le responsable de l'école?
Excuse-moi, c'est Roland, juste pour ça, mais peut-être à monsieur André Massé, qui est son colocataire, qui le connaissait depuis 9 ans. Pensez-vous, monsieur Massé, que monsieur Charlon, il arrive à être agressif, à être violent à un point où il peut vraiment blesser quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un?
Non.
Vous le confirmez aujourd'hui?
Absolument.
Ouais, vous le connaissez très bien.
Ça fait 9 ans que je cours.
D'habitude, quand il y a une crise comme ça, vous lui demandez quoi?
Mais moi, en général, je l'affronte, je face à face, je dis écoute, on arrête ça, là, on se calme. Puis deux choses. Ben, je demande de se calmer, point final. Oui. J'ai une bonne voix, moi aussi, tu sais. Je fais pas de l'opéra.
Est-ce qu'il vous écoute?
Oui, absolument.
Très bien.
Et vous lui demandez. C'est fini, là.
Parce que vous m'avez dit la dernière fois aussi, quand je vous ai rencontré chez vous, vous m'avez dit que chaque fois que je lui demande d'aller se reposer, d'aller se coucher, carrément, après une demi-heure, il revient normal.
Oui, absolument.
La crise passe et ça devient normal.
Oui, c'est ce qui est. C'est parce que c'est ce qu'on appelle avec le temps, les émotions sont passées, et puis on revient à l'émotion de la vie.
Ok, ce n'est pas le premier cas. Après ça, je sais qu'il y a 2-3 mois après, il y avait donc votre attitude dans le building où vous habitez fait que des gens ils ont déposé des plaintes contre vous, comme quoi vous intimidez les gens. Quelle sorte de plaintes contre vous? Parce que n'oubliez pas, chers autrices, chers auditeurs, que Monsieur André Massé et Monsieur Paul Charlon, ils sont exposés à une expulsion. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà un ordre de registraire de régie des loyers qui leur demande d'être expulsés d'ici le mois de juin. Donc, ils sont partis, ils sont allés en appel pour la décision, mais ils risquent d'être expulsés. Je vous poserai la question plus tard à Mme Joanne Galipo. Ces gens-là, ils vont être exposés à être des sans-abri. Peut-être pouvez-vous me répondre après l'événement. Après le premier événement, qu'est-ce qui s'est passé avec les policiers aussi? Ce n'est pas la première rencontre avec les policiers, j'imagine.
Non, c'est pas la première rencontre. Et les gens dans mon bloc ont dit, écoutez, la police vient régulièrement, ça fait peur aux gens.
Quand vous disiez régulièrement, là, parce que moi, c'est un mot que
j'aimerais
plus clair.
Régulièrement, une dizaine de fois en 4 ans.
Combien de fois?
Une dizaine.
Une dizaine de fois en 4 ans.
Là-dessus, c'est que j'ai fait des tentatives de suicide.
OK.
Il y a des gens dans mon bloc qui m'ont harcelé, qui m'ont frappé. Il y a des voies de fait. Alors moi, à ce moment-là, je réagissais et j'appelais la police.
Vous réagissez comment, monsieur?
Écoutez, moi, je rentre chez nous puis je dis, écoutez bien, là, ça n'a pas de bon sens, là.
Mais c'est pas juste ça. J'imagine que vous levez la voix, vous criez,
oui,
laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix.
Je vais engueuler les personnes comme faux, là. Ces personnes-là, je peux pas les nommer, mais ils sont poursuivis au criminel maintenant.
Oui.
Alors les gens disent, c'est moi qui ai fait le trouble, mais c'est les autres qui m'agressent. Alors, eux autres savent ma santé mentale.
Oui.
Et puis, il y en a même un qui a dit, écoute, la bière, là, puis la boisson, là, puis les pilules, là, ça va pas ensemble.
Oui.
Ça, c'est du harcèlement verbal.
Est-ce que vous consommez de la drogue?
Non, aucune drogue.
Aucune drogue.
Aucune drogue. Absolument rien.
Donc, vous pensez que votre attitude, est-ce que vous êtes conscient de cette attitude-là, quand vous levez la voix, quand vous criez sur les gens, que vous êtes conscient que les gens, vous êtes indésirables dans le building?
Effectivement.
Oui. Mais ça, c'est, vous pensez que ça vous échappe de votre contrôle?
Ça m'échappe pas, mais c'est comme, je sais pas moi, un loup qui serait acculé au coin d'un mur. S'il va se défendre, il va se défendre, là, il va grogner avant de sauter sur quelqu'un. Mais moi, je saute pas, là, je vais grogner.
Oui, Madame Galipo, vous savez, comme je viens exposer un petit peu le cas de M. Paul Charlon, et son colocataire. D'ailleurs, lui, il a rien fait, mais il est exposé d'être expulsé de son logement. Ce n'est pas le premier cas, j'imagine, c'est des centaines de cas. Vous l'avez déjà. Qu'est-ce que vous disiez à ce propos?
Bon, malheureusement, il y a le droit de monsieur par rapport versus les droits des autres locataires de la bâtisse. Peut-être qu'il est dérangeant. C'est des choses qui arrivent. Malheureusement, ce qu'on aurait besoin davantage à Montréal et partout dans la province de Québec, pas juste à Montréal, c'est des endroits, des...
spécialisés pour des cas comme ça?
Pas spécialisés, des logements avec un suivi communautaire où on est plus tolérant, où on sait comment réagir et agir. Bon, monsieur le dit lui-même, moi j'ai dit, va te calmer, va te coucher un petit peu. Parfois, ça suffit.
Vous parlez d'un intervenant sur le lieu, ça peut être beaucoup mieux.
Malheureusement, pas en nombre suffisant.
Oui, chers auditrices, chers auditeurs, on va juste prendre une pause rapide médicale avec le suivi d'une annonce publicitaire et on revient avec notre sujet d'aujourd'hui.
Ça fera bientôt 3 années. 3 années qu'elle est internée. Oui, internée avec les fous. C'est à cause de si elle est là seulement, voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater. La vérité, alors comme elle en a assez de pleurer, de toutes ses forces, elle se met à crier. Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Et à chaque fois, il y a les blouses blanches, encore et toujours les blouses blanches. Elles lui disent non, vous n'êtes pas folle, pas folle, pas folle. Les blouses blanches, elle aussi elle en a eu, une blouse blanche. Ah non, c'était une robe, petite robe blanche, une petite robe blanche avec des fleurs. Et il y avait du soleil tout autour des fleurs. Et dans sa main, il y avait une main, une belle main avec...
Que de donde son, que de donde son, que son de la barricada.
Queremos mandar un saludo de parte de los zapatistas.
Pour toutes les voix décidantes en faveur d'un changement social... En bas, à gauche. Des nouvelles de la Résistance tous les mardis matins, 9h, sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
Radio Centre-Ville, 102.3 FM ou www.radiocentreville.com. Captez tous les samedis, à l'heure de l'équipe haïtienne, l'émission Espace communautaire, pour vous mettre à jour sur les divers événements et activités de la communauté. À partir de 17h30, avec Gladys Demosthène et Jean Rodnil.
La mégastar du reggae africain Tiken Jah Fakoly est de retour à l'Olympia pour Un Soir Seulement le 17 février prochain. L'illustre artiste ivoirien, engagé, révolutionnaire, résolument tourné vers l'avenir, revient à notre rencontre, partager ses plus grands succès. Un rendez-vous unique, exceptionnel. Soyez parmi les privilégiés. Billets et infos au www.festivalnuitdafrique.com.
Nous représentons la réalité multiculturelle de Montréal. Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. En matière de musique, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Donc voilà, rebonjour chers auditrices, chers auditeurs, revenons à notre sujet d'aujourd'hui, profilage racial, et nous avons continué avec notre invité d'aujourd'hui, monsieur Paul Charlon. Vous m'avez parlé de premier événement, on a bien compris qu'est-ce qui s'était passé et tout, et ça n'était pas le premier, c'était pas le dernier. Si vous me parlez de celui du 11, on parle du 11 novembre, c'est ça?
Oui.
Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé cette soirée-là?
Okay, cette
parce qu'on parle quand même, on parle de presque 9h le soir. Hein?
Oui, écoutez, l'heure exacte c'est 20h50.
Oui, oui.
Je prends des notes parce que j'ai un livre personnel où j'écris, tout est écrit de toute façon.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais qu'il y avait une...
Là, on a eu une altercation avec justement la personne qui est poursuivie au criminel.
Oui.
Il m'a frappé et puis là, j'ai pris
ça, c'est un heure. Ça, c'est un voisin. Vous parlez d'un voisin?
Oui, le 26.
D'un voisin.
Je peux pas le nommer, là, c'est confidentiel.
Oui.
Le 6 du 11.
Oui.
OK, du 11. Et puis, les policiers sont venus à deux reprises.
Qui a fait l'appel?
On a fait l'appel, les deux personnes.
Une plainte croisée.
Oui. Oui. Alors, les policiers sont venus deux fois. Et la troisième fois, il y a une madame que je vais nommer parce
quand
que...
Quand vous disiez deux fois, dans la même journée ou quoi?
Deux fois dans la même soirée.
Dans la même soirée.
Dans la même soirée pour nous calmer, dire, écoutez, restez chacun de votre bord, parlez-vous pas.
Oui.
Et il y a une madame qui reste dans le bloc, qui est directrice du CA, madame Marie Zanry. Je tiens à le dire, là, parce
que
je pense
que... Elle n'est pas directrice, elle est un membre.
Voilà. Ça, c'est une personne qui nous harcèle aussi régulièrement, qui a fait des bavassages contre nous, moi et M. Massé, à une personne qu'on connaît très bien. Pour finir l'histoire, c'est que les policiers sont revenus en disant qu'il y avait une plainte à cause que je faisais du bruit.
Oui.
OK.
Mais est-ce mais vous pouvez nous dire aujourd'hui, vous faisiez du bruit. J'imagine que les gens
n'ont
pas...
Moi, j'ai fait du bruit.
C'est
j'ai frappé dans une porte à Marc. Ben, je ne voulais pas le dire, là.
Mais non, c'est rien.
Mais qu'est-ce qui vous a amené... Excuse-moi. Mais qu'est-ce qui vous a amené à frapper la porte?
Ben, moi, j'étais en furie, là. Là, je me suis dit, garde, là... tu me fonces dedans avec un panier, tu fais venir la police.
Oui.
Alors moi, j'ai donné un bon coup de pied dans la porte. Ça a été ma réaction.
Oui.
Okay. La police est revenue...
Est-ce que vous regrettez cette réaction ou non aujourd'hui?
Oui, je regrette. Okay. C'est une réaction...
Involontaire pour vous? Incontrôlable,
effectivement.
Oui.
Les policiers sont revenus du poste 27.
Oui.
J'étais endormi, je dormais, M. Massé peut le dire. Là.
À 9h le soir.
À 8h50, effectivement. Oui. Et puis, ils ont demandé à M. Massé de me réveiller.
Une seconde, si j'aimerais bien passer à M.
Oui, effectivement.
Quand ils ont sonné ou ils ont entré comment?
Ils ont sonné ou cogné. De toute façon, il y avait déjà... j'appréhendais déjà qu'il arriverait quelque chose dans ma tête.
Okay.
Alors, moi, j'ai pris l'allumage, j'ai avoir un voisin, j'y ai laissé. Je suis revenu à la maison, puis les polices... Ils ont cogné peut-être, là, boussonné. Mais quand ce qu'ils arrivent, c'est toujours sans mandat, ces trucs-là. Hein.
Oui. Ils ont cogné à la porte, vous avez ouvert la porte, ils ont passé directement à
chercher. Ben, j'ai dit, oui, M. Charland, j'ai dit dans sa chambre.
Ils ont passé directement.
Oui, ils ont passé directement. Bonjour, dites. Puis là, ils l'ont pogné. Hein.
Oui.
Ils sont sortis avec.
Mais est-ce que vous avez essayé d'expliquer à ces policiers parce que vous le connaissez très bien?
Le gros problème de ça, c'est que la police ne dit jamais rien.
Ouais.
Quand on dit rien, là,
ouais.
c'est absolument rien. Parce que dans le fond,
la personne qui était la plus près pour essayer d'expliquer une
la
chose
plus proche,
celle-là,
oui.
C'était moi.
Oui. Vous le connaissez.
Alors, monsieur,
bien.
Allez-vous-en, vous n'avez pas d'affaires là, c'est pas de vos affaires, c'est fini, on vous
mais,
classe.
Oui, mais j'aimerais bien, monsieur Massé, j'aimerais bien, vous avez souhaité quoi? Vous avez souhaité dire aux policiers, écoutez, donnez-moi au moins 3 minutes, je vous explique un petit peu le cas, et je vous donne un petit peu plus d'explications sur le cas
pas,
de monsieur.
Vous ne pouvez pas faire ça parce que si vous arrivez à faire une réaction avec quel que soit ce que vous dites, ils vont vous arriver en trappe ou pas au travail de la police. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est moi qui vais me criser dedans. Alors, comme j'ai encore la sagesse, sinon la police,
alors
j'ai dit, je ferme ma gueule. Parce que
alors, vous êtes écarté, vous avez laissé passer. Ils sont passés à la chambre directement.
Oui. Introduction.
Oui.
Il est sorti de sa chambre. Et puis après ça, ben.
Ils ont demandé de écoutez, viens nous voir là, dans le corridor, on a quelque chose à te dire.
Oui.
Ils m'ont menotté, ils m'ont frappé, ils m'ont donné.
Explique-nous là. Et là, vous arrivez comme ça, quoi, vous disiez bonjour, quoi. Ils sortent sur vous, ils menottent et vous me frappent, c'est un petit peu trop dur là ce que vous
disiez. Je suis arrivé dans le corridor et tout de suite, ils ont dit écoute, là, on s'en va à l'hôpital. J'ai dit pour quelle raison?
Est-ce que vous ont dit que vous êtes en arrestation?
Je n'étais pas en état d'arrestation, il n'y avait pas de mandat.
Oui.
Ça, c'est mon avocat me l'a dit, ça c'est grave ça. Ils ne peuvent pas arrêter quelqu'un comme ça.
Alors, si j'ai bien compris, ils vous ont dit on va vous conduire à l'hôpital. Ils ont dit,
vous permettez.
Je vous en prie, Mme Galipo.
Oui, un policier en vertu de la loi sous la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui peut amener quelqu'un de force à l'hôpital.
Tout à fait. Si
je considère que l'état mental de la personne est un danger pour elle ou pour autrui.
Oui, c'est le cas.
Non. Ils peuvent vous arrêter sur la rue et dire.
Non, pas dans les mesures de guerre.
Non,
voyons. Moi, je vais rajouter que j'étais pas sur la loi du P38 en plus. J'étais pas dangereux pour moi, ni pour les autres.
Ah, ben ça, je n'ai pas de misère à vous croire. Là. On a plein d'histoires et plein d'études qui démontrent qu'on arrête beaucoup plus souvent les personnes dérangeantes que les personnes dangereuses. Parce que,
pour finir mon histoire, j'ai été plaqué au sol, tabassé. Je demandais.
Mais pourquoi tabasser vous avez.
Je sais pas, ils étaient en maudit, les polices, parce qu'ils m'ont dit c'est la troisième fois qu'on vient ici.
Ah, parce qu'ils sont venus plusieurs fois.
Deux fois dans la soirée.
Donc là, ils voulaient faire fin à ça et vous voulez
vous mener. On dit on te ramasse puis à l'hôpital. J'ai dit où c'est qu'on s'en va? Quel hôpital? J'ai dit pour quelle raison m'arrêter?
Non, ils vous ont tabassé, là. De quelle manière vous ont tabassé?
Ben écoutez, moi, je m'en rappelle pas trop. Je suis arrivé à l'hôpital, ils ont dit on va attendre l'ambulance dans le char de police parce qu'ils ont dit là, ton état, faut qu'on t'amène à l'hôpital.
Non, mais vous avez dit de tantôt qu'ils m'ont tabassé.
Écoutez, ils m'ont donné sûrement une volée parce que j'étais arrivé à l'hôpital avec des bleus partout, des égratignures, trois côtes cassées.
Trois côtes cassées?
Oui, monsieur. J'ai un rapport médical de 4 pages que je suis allé chercher à l'hôpital. Donc, et le médecin, quand je suis arrivé, le docteur Lajeunesse.
Donc, il ne s'agit pas d'une simple volée, ça?
Mais non, moi, je ne me suis pas cassé les côtes en me regardant dans le miroir et en me peignant. Là.
Non, il a sauté dessus carrément.
Vous le voyez, vous le observez,
moi, j'étais
là.
Moi, au bout du corridor, j'ai regardé faire, je n'ai rien à faire.
Donc, ils ont sauté sur lui?
Oui, ils punchaient la manette, puis à 4 pattes, les deux par-dessus, puis en haut dedans. Tu sais, je veux dire? Même si j'aurais crié dans le corridor, qui criait déjà.
Moi, je hurlais au meurtre, puis les gens ont dit bon, mais il dérange encore dans le bloc. J'étais écrasé, puis j'avais de la douleur. Là,
Je comprends. Vous m'avez dit aussi qu'il y avait un cadet qui accompagnait les policiers.
Ça, c'est un autre tantôt. Ça s'est passé le 23 dernièrement. Moi, j'ai commencé à faire des crises d'angine. Je suis tombé dans le métro, je me suis rendu à l'hôpital. Il y a un préposé qui a commencé à me shooter de la merde en bon français.
Ouais.
Hey, tu viens ici trop souvent, patati patata. Il n'avait pas le droit de dire ça.
Ouais.
Le médecin est venu. Il dit, écoute, on va t'attacher. J'ai dit, écoutez, là, moi, je suis en train de faire une crise d'angine. Ils m'ont laissé là 45 minutes sans aucun soin, ni d'infirmière, ni rien, pas de pression. Et au bout d'un moment, j'ai dit au médecin, j'ai dit, moi, là, je vais m'en aller chez moi. Alors, ça, c'est un événement qui s'est passé le 23, et les policiers sont revenus le 24 parce que le préposé a fait une plainte comme de quoi j'avais fait des menaces de mort. Alors, moi,
dans le préposé à l'hôpital, de l'hôpital.
Oui. J'ai son nom, j'ai toute la foule, en tout cas. Et puis, là, quand ils sont revenus le lendemain, il y avait une femme police, deux policiers et un cadet de la police.
OK.
Ils me les ont présentés. Le reste de l'histoire, je m'en souviens plus.
Vous avez perdu la mort ou quoi?
Bon, la raison va être très simple. Quand que la policière est rentrée dans la chambre, lui demandant de l'accompagner, lui,
J'ai appris l'avocat.
Le don d'une chose, il y a toujours son petit livre des droits devant lui, puis après, il recite toutes les affaires, la C-31, C-38, je sais pas trop, toutes sortes de bebelles comme ça.
Ouais.
Puis la policière a dit, mais c'est assez, là. Elle dit, tu peux te lever, là.
Alors, il s'est effectivement levé. Mais là, il disait, avant de partir, il s'est habillé, mis ses pantalons. Il est allé aux toilettes. Je peux-tu aller aux toilettes? Il dit, aucun problème. Il est allé à la salle de bain, il a fait ce qu'il a à faire, je ne sais pas ce qu'il avait à faire là, en tout cas. Il doit le savoir. Et d'une part, le policier qui l'accompagnait, il a mis le pied dans la porte et dit, « Hey, là, on ne va pas à la porte ici. » Deux secondes après, il dit, « Hey, ça fait trop longtemps que tu es là. » Ah ouais, là, à l'instant, il a poussé à la porte, mais il est tombé dessus, puis il l'a vargé, pas à peu près. Excusez-moi.
Oui.
À coup de poing, puis mazant.
Il a donné un coup de poing sur sa toilette?
10 à 14.
Non, juste à la tête.
J'étais menotté, j'étais couché à terre, et M. Massé m'a dit qu'il m'a sacré une maudite volée.
Suite au poste de police, qu'est-ce
qu'il et ça, et tout ça, c'est devant le
stagiaire.
Devant le stagiaire, devant le cadet, là.
Oui. D'après moi, il était frustré. Il voulait montrer un stagiaire, regarde, c'est même qu'on arrête.
C'est l'apprentissage, hein.
C'est ça. Oh oui, c'est ça.
Il y a une chose, par exemple, c'est pour ça qu'il est avide de justice.
Oui.
Il est avide de justice parce qu'il a été abusé dans ses droits.
Oui.
Et quand il leur cite ses droits, c'est parce qu'il se sent abusé.
Oui. Encore une fois, j'avais pas de mandat, il n'y avait rien pour m'arrêter.
J'aimerais bien juste maintenant revenir peut-être avec Mme Joanne Galipeau, qui est quand même... vous avez quand même, Mme Galipeau, une longue expérience dans ce domaine-là, accompagner ces gens-là. Vous entendez ces gens-là devant vous aujourd'hui dire tout ça? Est-ce que ça vous revient un petit peu? Ça vous donne une référence à...
Malheureusement, des histoires comme ça, nous en entendons régulièrement.
Régulièrement, voilà, c'est ça.
Que ce soit par le personnel médical. Écoutez, dernièrement, il y a une personne qui est venue nous rencontrer. Elle se présente à l'hôpital, elle fait une pneumonie. Elle est malade, non?
Oui.
On regarde son dossier, mm-hmm. On voit un diagnostic de santé mentale. Bien, elle s'est retrouvée à l'urgence psychiatrique. Et pourtant, ça n'avait rien à voir avec les policiers. Encore dernièrement, encore dernièrement, il y a une personne qui se fait agresser par son concierge dans son immeuble.
Ouais.
Elle porte plainte et elle se ramasse à l'urgence psychiatrique, encore une fois.
Ça veut dire le regard, ce n'est pas juste aux routes policières, c'est partout ils sont regardés comme ça.
On ne les croit pas. C'est eux autres qui font les problèmes.
Ouais.
À tort ou à raison,
ouais.
Mais c'est systématiquement, là, ouais. Quand on parle de profilage, c'est ça. Là, on part d'une idée que la personne est de cette façon-là et on agit en fonction de cette idée-là, peu importe que cette idée-là soit corresponde à la réalité ou pas. Il n'y
oui.
A plus de chance. Tu es étiqueté, tu es catalogué, tu n'as plus de droit. On agit comme ça.
Oui, Mme Galipeau, vous êtes quand même, je sais que vous êtes un organisme limité dans ses sources et tout. Si je me permets, je ne sais pas, je ne connais pas votre... Mais dans votre programme, dans les projets à venir, qu'est-ce que vous prévoyez pour vraiment protéger, s'il y a une sorte de protection, apporter une protection à ces gens-là?
Écoutez, on a de l'aide individuelle. Monsieur a déjà fait affaire, disait avant l'émission, parce qu'il ne l'a pas dit, dans la radio qu'il avait déjà fait appel à nous autres. Il y a de l'aide et de l'accompagnement au niveau individuel pour aider les gens à faire valoir leurs droits. Et il y a aussi ce qu'on appelle, nous, nos dossiers collectifs, c'est-à-dire des représentations au niveau public, comme aujourd'hui, au niveau politique, afin d'essayer de faire bouger les choses tranquillement, pas vite.
Oui, mais par exemple, monsieur, notre invité aujourd'hui, il disait... Avant l'émission, comme quoi il n'était pas trop satisfait de votre service. J'ai bien compris, oui.
Bon, ce qui s'est passé, pour une histoire courte, c'est qu'à la suite qu'on a été expulsé, je suis allé voir une personne chez Action Autonomie et je lui ai demandé de faire un rapport avec ça, qu'est-ce que je pouvais faire. Et je suis retourné chercher des papiers.
Oui.
Et puis après ça, on m'a donné des explications, mais je ne suis pas parti avec la bonne explication. Je suis remonté et je suis allé voir la personne et j'ai dit... écoutez, là, moi, si on est expulsé, qu'est-ce qui va se passer?
Oui.
Là, on me dit, vous avez 10 jours pour décoller. J'ai dit, vous ne m'aviez pas dit ça, là.
Mm-hmm.
Fait que là, je suis reparti frustré un peu.
Mm-hmm.
Mais il y a encore j'ai été rappelé pour aller à des formations, il y a encore des bonnes choses. Puis,
mais ils vous ont quand même donné une explication, ils vous ont aidé, ils vous ont donné des références, des sources, j'imagine.
Oui.
Mais vous pensez que c'était pas assez ou quoi?
Oui, c'est. Mais après l'explication de 10 jours d'avis, je ne savais pas si on était expulsé. Moi, j'ai dit, tabarouette, je n'ai pas grand temps de me revirer de bord.
Ouais, okay.
Et ils m'ont rappelé à plusieurs reprises.
Action Autonomie?
Oui, et prochainement, ils ont une formation sur les abus des policiers.
Oui. Madame Joanne, vous donnez des ateliers pour ces gens-là?
Il y a des formations qu'on appelle les droits et recours en santé mentale, oui. Où on fait le tour de tous les domaines de droit où les personnes peuvent avoir des problèmes. Là, lorsque tu as un problème de santé mentale, ça peut s'adresser à bien d'autres personnes aussi, qu'on a deux fois par année, deux séries de six cours. Et on a, bon, monsieur parlait, c'est pas tellement une formation, c'est un café rencontre pour connaître l'expérience des gens avec, justement, on parle d'abus policiers, mais on le sait qu'il y en a, des abus, qu'il y en a du profilage, que ça existe. Et donc, c'est à partir des témoignages qu'on va rencontrer, on verra s'il y a toujours lieu de monter un dossier, de faire une campagne. Est-ce que nous avons les énergies, les ressources pour le faire? Et souvent plus la question que le bien fondé ou l'intérêt là, sur
Madame,
de la question.
Madame Galipou, si vous me permettez, vous savez bien que M. Charlon, il est exposé à une probable expulsion de son appartement. C'est possible aussi qu'il peut se retrouver dans un sans-abri. Qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que vous pouvez prévoyez accompagner de tel dans de tel cas, accompagner devant la cour pour expliquer vraiment que
devant la cour nous laisse pas parler. Nous sommes pas des avocats, des avocates. Ouais. On peut accompagner la personne en termes de support moral, en termes de l'informer sur ses droits, de l'aider à faire ses démarches. Mais c'est la personne qui fait ses démarches, c'est pas nous. Nous ne sommes pas avocats, avocates. Il y a pas d'avocat, d'avocate avec son.
Mais est-ce que vous sensibilisez?
Il travaille là, en tout.
Mais est-ce que vous? je me demande, est-ce que vous sensibilisez aussi de temps en temps, par exemple, le régime des loyers, comme quoi ces gens-là, ils sont fragiles et ils peuvent à tout moment perdre. Et les conséquences de cette perte-là de leur logement?
Ça, c'est à l'avocat qui les représente à le faire.
Oui.
C'est pas tellement à nous qu'à l'avocat. Et nous, on peut au mieux essayer de sensibiliser l'avocat pour qu'il fasse des représentations à ce niveau-là. Oui. Mais il faut comprendre, et là, je ne vais pas prendre la défense de la régie, mais on va la prendre en le disant que la régie est là pour appliquer la loi aussi.
Oui.
Et qu'ils ont une marge de manœuvre qui est quand même très mince, là. Et à partir du moment qu'on lui fait une certaine preuve, malheureusement, c'est pas la régie qui peut régler ces problèmes-là. Là. C'est plus à d'autres niveaux qu'on doit chercher les solutions.
Roland, vous dire quelque chose?
Mais c'est parce que le gouvernement a démissionné devant ses responsabilités.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Alors, ces gens-là n'ont plus d'endroit où vivre et parfois ils vivent parmi des gens qui sont agressifs et qui ne peuvent pas comprendre leur souffrance, leur maladie ou ce qu'ils ont. Alors, on ne les soigne pas. On les a foutus dehors des hôpitaux et maintenant, on leur fesse dessus, on envoie la police, ainsi de suite. On tue ces gens-là et ainsi de suite. C'est injuste. Oui. Avez-vous été place des arts? Je vais vous dire une chose, c'est honteux. Il y a des itinérants à toutes les planchers couchés à terre. Et là, ils sont organisés. Ils sont pas bêtes, attention. Ils se sont organisés. Il y en a un qui vient, qui dit, OK, réveille-toi, là, parce que ils vont passer, là. Et là, ils se mettent dans un coin à côté d'un guitariste. Vous savez, c'en est plein. Place des Arts, je me suis perdu, puis j'étais dans le métro de Place des Arts.
Oui, mais
j'ai jamais vu autant d'itinérants.
Roland, vous avez remarqué aussi qu'en quoi vous avez remarqué aussi l'histoire que la ville, ils ont enlevé des bons.
Il suffit d'un régisseur, comme Mohamedi, ça a été le même cas. Ils l'ont foutu dehors de son appartement parce qu'il avait des réactions bizarres. Et là, ce gars-là se retrouve, et puis du jour au lendemain, il y a un bon policier qui le tire. Et puis les autres l'exterminent comme un animal blessé. Alors, je m'excuse, là, il y a un manque d'humanité dans notre système, et c'est la faute des gouvernements.
Écoutez, c'est depuis la désinstitutionnalisation que tout le monde crie, personnes, c'est très bien qu'on ait sorti les gens des asiles. C'était pas la place. C'était pas leur endroit, c'était pas un endroit approprié. Sauf qu'il y a un manque criant de suivi dans la société. Et l'histoire de M. Farshad Mohammadi, c'est ressorti beaucoup, énormément dans les médias. Il manque de suivi, il manque de soutien. On le sait, on le dit, on le décrit, on le demande.
Au lieu d'envoyer des 50 millions à Tchernobyl, il ferait mieux d'ouvrir un lieu pour ces gens-là, de façon à ce que ces gens puissent avoir une protection et quelqu'un qui veille à ce qu'ils prennent leurs médicaments.
Attention, les médicaments, c'est pas toujours la solution miracle.
Non, mais il y en a certains qui doivent prendre leur
médicament. Ça aide beaucoup.
Oui. On va passer la parole à M. Massé. Et vous
dans ce qui se dit, ce que je vois, ce que j'essaie de comprendre, c'est de me faire expliquer d'une façon indirecte quelle réaction nous devrons-nous avoir face à ces plans, avec ces policiers lorsqu'ils nous servent? C'est quoi notre réaction? De quelle façon doit-on agir? Qui peut-on appeler pour faire plainte de ces gens-là? C'est pas eux qui vont courser. Nous courons après les lieux, les endroits, dans une journée, on peut en faire 10, là. Ouais. Mais qui paye? Quand tu prends l'autobus, c'est 2,40$. Ouais. Quand tu prends deux, c'est le chèque déplacement, c'est 5$. C'est sur bien-être social à 13 000$ par année.
Vous êtes en train de dire que vous êtes découragé de.
Vous avez la réponse. Ouais. C'est pas compliqué. C'est le comportement à avoir. Quel comportement doit-on avoir avec ces gens-là? Il y a un comportement passif, avisé, fermé, je sais-tu. D'après moi.
Il y a des plaintes à des tonnes policières, on peut déposer des plaintes à des tonnes policières.
Oui, ça prend 10 ans.
Bonne chance.
Ah, mais c'est toujours la police qui défend la police, hein. C'est deviné.
Voyons, réfléchissons. Les Alzheimer, on sait que les Alzheimer ont des réactions bizarres des fois.
Oui.
Bon, alors supposons qu'un Alzheimer habite un immeuble. Est-ce que c'est social, cet immeuble-là?
Oui.
Bon, alors il habite dans un immeuble social et parfois, là, il y a une paranoïa, il y a une certaine réaction, là, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas médecin, moi. Mais est-ce qu'on va la foutre dans la rue parce qu'elle a des réactions de sa maladie? Voyons, sommes-nous humains?
Oui. Revenons maintenant un petit peu à quelque chose encore plus sérieux avec Mme Galipeau. À part ce que vous offrez aux gens, à ces individus-là qui sont atteints de problèmes de santé mentale et tout, pouvez-vous nous dire aujourd'hui quels sont les projets venir, si vous voulez?
Écoutez, on a notre dossier que ça fait, mon Dieu, 20 ans qu'on se bat.
C'est depuis 20 ans que vous êtes en train de pédaler sur la même route?
Ben contre les hospitalisations forcées. Oui. Dans certains cas, ça peut être justifié. Malheureusement, c'est parce que la majorité des cas, ça ne s'est pas justifié. Donc, c'est notre principal cheval de bataille. Oui. Il y a, mon Dieu, la semaine prochaine, il y a une étude qui va sortir sur les ordonnances qui obligent les personnes à se faire soigner, traiter. Oui. Des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, bien entendu. Oui. C'est pathétique ce que cette étude-là a encore une fois fait ressortir la même chose.
Mais expliquez-nous, Mia, ça veut dire, ils sont obligés d'être...
On va chercher un ordre de la cour qui les oblige, et s'ils ne se présentent pas pour leur traitement, c'est la police qui va les chercher et qui les amène. Généralement, c'est des... Bon, dans la majorité des cas, c'est des injections une fois par mois.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, présentement, ces gens-là,
c'est un droit fondamental, c'est ton intégrité physique. Tu as le droit de consentir ou pas à des traitements. En tout cas, quand c'est des traitements physiques, tu as le droit. Quand c'est des traitements pour la santé mentale, semblerait que c'est pas toujours aussi évident. En tout cas, on peut obliger. C'est prévu. Il y a une loi pour ça qui oblige. C'est encore une privation de liberté. Cette étude-là, ce qu'elle ferait sortir, c'est quoi? C'est les problèmes de la vulnérabilité sociale ou la vulnérabilité psychologique des personnes qu'on traite.
Venir en aide à tout moment.
Oui. Moi, je voudrais rajouter que dans la vie ordinaire, je suis, je veux dire, un bon gars. J'aide les gens. Je fais du bénévolat auprès d'une personne âgée. Je dis bonjour à tout le monde. Le monde me connaisse avec le pitou, là. Mais je veux dire...
Sociable, quoi.
Très sociable. Je vois quelque part, bonjour, ça va bien, poli. Même avec les policiers, j'étais poli, mais là, il y a eu beaucoup d'abus. Mais il y a beaucoup de personnes qui pourraient même venir en cours et témoigner pour moi, comme de quoi j'étais un gars bien ordinaire, puis peut-être plus avenant que la plupart du monde, parce que je viens d'un petit village, là. Mais on est habitué de se rencontrer des personnes puis de dire bonjour, bonjour. Alors moi, j'ai pas changé.
Oui.
Puis je pense là, que...
Monsieur Charlon, est-ce que vous avez une peur si demain vous allez se trouver dans la rue?
Mais tout le monde a peur, là, mais je veux dire, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Moi, ça va être de l'inconnu.
Est-ce que ça vous jette dans la panique? Est-ce que vous sentez comment maintenant? Juste le fait de savoir qu'il y a une possibilité d'être expulsé de son logement.
Moi, je suis amer avec tout ça. C'est de l'humiliation aussi.
Oui.
Parce que si tu te ramasses dans la rue, t'es comme nowhere, t'es plus personne. Tandis que là, je peux toujours faire quelque chose, comme je disais, du bénévolat ou des choses comme ça. Alors à ce moment-là, je serais pas habillé comme du monde, j'aurais plus d'espoir de manger comme du monde, et je vais rencontrer des itinérants comme moi et des autres. Et moi, j'aurais peur de tomber dans la drogue, dans la boisson, et devenir vraiment vulnérable, chose que je fais pas présentement.
C'est le pire.
C'est une chose qu'il faut pas oublier. Vous êtes dans un logement social.
Oui.
Vous comprenez très bien que là, on n'assume plus le logement social pour les gens en besoin. Voilà ce qui est grave. Nos gouvernements ont démissionné devant leurs responsabilités. C'est ça.
Qu'est-ce que je trouve très de valeur? Ils ont mis une étiquette à ce monsieur-là.
Effectivement, je suis étiqueté.
À l'âge qu'il a, mettre une étiquette.
À 50 ans, là,
défavorable.
Là, il laisse des doutes à des gens.
Exactement.
Et les policiers, je les ai demandé la dernière fois qu'ils sont venus, êtes-vous au courant que j'ai de la misère en santé mentale? Ils ont dit oui, monsieur, on est au courant.
Ils ont un dossier, c'est ça?
Non, c'est dans leur ordinateur d'abord. Ils savent. Du moment, la première fois qu'ils interviennent et qu'eux autres pensent que tu as un problème de santé mentale, c'est même pas, on laisse faire le diagnostic par le psychiatre, là, qui pense qu'il y a peut-être un problème de santé mentale, ça rentre dans leur ordinateur de bord. Donc, si on va intervenir à telle adresse, ils savent qu'à telle adresse, il y a une personne qui a peut-être un problème de santé mentale, ou mieux, au pire, c'est-à-dire qui a déjà eu un diagnostic, qui a un diagnostic de santé mentale, ils le savent. Donc, ça conditionne aussi leur façon d'approcher la personne. Ouais. Quand on parle de profilage, c'est ça. Là, ouais. Ils arrivent et déjà, ils ont un préjugé. Que quoi que tu dises, on te croira pas. Ouais. Et si tu t'énerves, ben, c'est certain.
C'est votre attitude, quoi. C'est votre réaction qui est normale.
Même chez les adultes, il y a la démarche.
Il y a plusieurs de nos membres, nous autres, lorsqu'on fait des rencontres, on discute avec ton rompu, qui disent, écoutez, la seule façon de s'en sortir de ce système-là, tant avec les policiers qu'à l'hôpital, quand on t'amène de force, tu restes calme.
C'est ce qu'on lui donne, une cellule avant d'entrer.
Tu restes calme. Puis, tu bouges pas. Puis là, ils vont te laisser aller tout de suite.
Voilà.
Mais si tu t'énerves, là, ça se peut.
C'est un bon conseil.
C'est facile à dire. C'est facile à dire quand on n'est pas dans la situation.
Ben, c'est ça. Si on saute sur moi avec pure menotte, puis je commence à paniquer, je peux pas rester calme. Quand tes policiers du poste 10 sont arrivés, j'étais calme, je venais de me réveiller. Tant qu'elle me donnait une volée, il aurait dû me laisser me réveiller comme il faut. J'aurais pu manger des coups et le savoir.
Mais là aussi. J'aimerais bien, maintenant, il reste quelques minutes.
Je veux rajouter que les policiers, quand ils sont arrivés, n'ont pas demandé si j'étais sous médication ou quoi que ce soit. Et moi, comme je commence à faire des crises d'angine, le policier aurait pu me tuer. Juste en me projetant à terre et en me battant 10 à coups de fouet à la tête. Et le gars s'est même vanté dans l'auto. Il a dit à sa partenaire, il dit, moi, je pense, depuis que je suis policier, c'est la première fois que je donne une voilée de même à un homme.
Vous avez entendu ça?
Oui.
Le dernier mot, c'est que suite à ce que nous disons, l'éviction de loyer, M. Charland sera évicté, mais c'est moi qui est évicté. C'est moi qui ai la responsabilité de l'autre, puisque je suis le locataire et non le colocataire. Et à ce moment-là, leur façon d'agir au CA, au conseil d'administration, ils ont oublié de réfléchir que c'est deux êtres humains qui mettent dans la rue et c'est pas un humain qui met dans la rue.
Voilà, dernier.
C'est ça. Parce que monsieur a été bon de recevoir quelqu'un qui était mal pris, il est pénalisé.
Voilà, donc, avez-vous un dernier mot rapidement, madame? Non? C'est parfait, excellent. Donc voilà, chères auditrices, chers auditeurs, c'est malheureusement tout ce qui nous reste de notre temps. Je désire remercier nos invités, monsieur Paul Charland et monsieur André Massé, madame Joanne Galipo de Action Autonomie. Je remercie aussi mes collègues Roland Cazès, j'ai aussi monsieur Barnabé, Clara, de leur collaboration. Merci Madame Rosemont de Logo, notre technicienne de son, pour tout ce qu'elle fait pour nous. Sans oublier, bien sûr, de remercier Radio Centre-Ville 102.3 FM pour nous avoir cédé cette rubrique afin que la parole de l'autre existe. Moi, je vous dis à la prochaine. Voilà, merci et à bientôt.
Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre, et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. Pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer, Bien sûr, il y a nos défaites. Et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête. Étonné d'être encore.
TD présente Fondue au Noir en collaboration avec Astral du 1er au 25 février. Célébrez le mois de l'histoire des Noirs en cinéma, danse, musique racine, jazz, gospel et musique du monde. Découvrez les soirées cinéma Astral au cinéma ONF et les grands spectacles TD au cabaret du Myland avec Sylvie Desgroseilliers, Charles Biddle Jr., Wesley Macaya, la chorale CCMM et plusieurs autres du 1er au 25 février. Billets et programmation fondueaunoir.ca, un événement de la Fondation Fabienne Collat.
Bonjour, ici Claude-Marie Landré. Tous les lundis de 1h30 à 2h, je vous invite à écouter l'émission Trame sonore qui parle de musique, de films, musique à l'image. Des entrevues, des découvertes musicales sont au rendez-vous. Ne manquez pas Trame sonore de 1h30 à 2h tous les lundis sur les ondes du 102,3 FM du Pur Plaisir.
En ondes depuis 20 ans, l'émission Folie douce est fière d'avoir remporté le prix d'excellence médiatique 2011 de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Félicitations à tous les artisans pour ce bel honneur. Écoutez-nous chaque jeudi matin dès 10h au 102,3 FM à Montréal.
Vous avez une soif inaltérable du savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102,3 FM et sur le câble au 88,3.